À voix nue. Toute cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Étienne Dao. Ce soir, l'homme qui marche.
Étienne Dao, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chanteur, auteur, entre autres choses, aussi photographe. On aura peut-être l'occasion d'en parler ce soir. Nous avons, au cours de cette semaine, évoqué votre jeunesse rennaise, l'enfance à Oran, vos nombreuses obsessions pour certains artistes. J'aimerais parler de vous au travail, de l'homme qui marche, pour reprendre un titre que vous aviez emprunté à une célèbre sculpture de Giacometti. Qu'est-ce qui vous fait marcher, Étienne Dao? Qu'est-ce qui fait que, tous les deux ans, vous publiez un album? Vous pourriez ne rien faire ou quitter ce qu'on peut appeler la compétition?
Mais c'est pas une compétition. Je me suis peut-être à tort jamais senti en compétition avec qui que ce soit. Peut-être parce que j'aime bien les autres, qu'ils ne me font pas peur et que j'ai l'impression d'être dans mon petit îlot et que je ne suis pas menacé de quoi que ce soit. Et je ne fais pas des albums tous les deux ans. Tous les quatre ans, cinq ans, c'est long en fait. Et si on... Ça fait à peu près 35 ans, un peu plus, que je chante. Et je crois que ça va être le 11e album. C'est pas beaucoup.
Il y a des tournées, les singles, vous dites.
Et puis il y a aussi le travail avec les autres. Je travaille beaucoup avec les autres.
Exactement.
Les productions pour les autres artistes. Je passe du temps avec les autres. C'est important pour moi. Parce que c'est un métier qui est très égocentrique et le côté égocentrique est très fatigant pour moi. Je trouve ça très difficile de parler de moi, parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression de faire perroquet, en fait, et de dire un peu toujours les mêmes choses, et ça aussi, c'est un peu le côté simulation qui me met mal à l'aise.
Vous l'évoquiez, Étienne Dao, vous êtes aussi éditeur et producteur. Producteur, par exemple, pour Les Valentins, c'était Les Maudits, La Ville de Daniel Darc, ou encore Bill Pritchard, pour Jacques Noe aussi. Pour qui vous serez producteur, c'est pour son album Faux Témoin en 95. À ce moment-là, c'est presque comme un retour des choses, puisque c'est lui qui avait produit votre premier album.
Oui.
Qu'est-ce que vous lui apportez en tant que producteur, Étienne Dao?
C'était un beau moment de partage. C'est vraiment un ami pour la vie, Jacques Noe. C'est vraiment une belle personne, une intelligence, une vivacité rare, hein, vraiment. C'est la personne la plus drôle que j'ai jamais connue.
C'est vrai qu'il vous avait menacé avec un revolver?
Oui, parce que, en fait, c'est des vieilles histoires. Oui, il m'a menacé avec un revolver. C'est une histoire de fille. Mais j'étais ivre mort et ça me faisait rire. On a fini bras dessous au bar, tous les deux. Hein. Il m'a pas tiré dessus.
Autre exemple de production, Étienne Dao, c'était pour Lou Doyon, l'album Places, qui est paru en 2012. Avant d'entendre ses chansons, peu de gens misaient sur Lou Doyon. Qu'est-ce qui vous décide à travailler avec elle?
J'ai vu qu'elle était perdue. Et ça m'a touché, vraiment. D'abord, sa maman était venue ici pour écouter Le Condamné à mort. Et elle m'a dit, tu devrais écouter les chansons de Lou. Et j'ai vu Lou à l'anniversaire de Jane, quelques semaines après.
Et Jane Birkin.
Et j'ai vu Lou, elle était tout en cuir. Elle était en côté San Francisco. J'ai trouvé ça très sexy sur elle. Mais elle avait l'air tellement perdue. Et je lui ai parlé de ses chansons. Elle m'a dit, tu veux les écouter? Et je la connaissais depuis longtemps, mais j'avais pas d'affinité avec elle. Il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre l'un de l'autre. Et je suis allé écouter les chansons chez elle. Elle les a jouées, des fragments, la guitare. Et d'abord, j'ai été saisi par sa voix. Elle me faisait penser à un genre de Karen Dalton. Et puis, c'était très, très beau. C'était vraiment, elle montrait vraiment qui elle était, alors que c'était la hit girl. On sait pas trop ce qu'elle faisait, la mode, le cinéma. Enfin, c'était un peu flou. Et là, vraiment, ça m'a vraiment touché, quoi. Ce qu'elle a fait. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre un an pour faire ce disque. Et je lui ai consacré un an de ma vie, mais parce que c'est un partage, quoi. En plus de ce que je lui ai donné, elle m'a apporté beaucoup, véritablement. Donc, je lui avais dit, voilà, essayons de faire quelque chose. Et si ça marche pas, à poubelle. Rien ne nous lie. Et puis, j'avais un peu des fantasmes par rapport à elle. Tout d'un coup, je suis devenu obsédé par elle, forcément. Quand je travaille pour quelqu'un, je développe une petite obsession. Ça me permet de maintenir le travail et l'envie. Produire un disque, c'est comme être metteur en scène. C'est avoir une vision et avoir une idée des musiciens qu'on va utiliser, des arrangements qu'on va écrire, du studio qu'on va prendre, de quelle expérience sonique ça va être, en fait, au bout du compte. Et chaque fois que je parlais de Lou, je faisais écouter, tout le monde était là. Genre, enfin, il y avait une hostilité, vraiment, que je ne comprenais pas. jusqu'à ce que je ne dise plus son nom et que je fasse écouter les maquettes. Et j'ai vu à quel point le pouvoir du nom peut être important.
Brigitte Fontaine, avec qui vous avez travaillé, Étienne Dao, avait écrit un petit texte à votre propos. Oh. Oui, je sais pourquoi vous réagissez, parce que vous pensez...
Parce que c'est vrai.
Mais parce que vous pensez au premier mot, on peut retrouver ce texte aux éditions Flammarion. Je reviendrai sur les mots de la fin, plutôt, où elle dit « Il a une poigne de fer et de fer, F-A-I-R-E ». Quand est-ce que vous avez été le plus dur et le plus sûr comme producteur, Étienne Dao ?
Je suis toujours assez ferme, mais en même temps, comme je suis musicien moi-même, je comprends la complexité du moment où on est en studio, de cette fragilité où tout peut partir vraiment dans le mauvais sens, comme ça, c'est facile. Moi, j'ai la chance d'avoir une vision, je sais vraiment où je vais. Le disque est fini pour moi, en fait, une fois en studio. Une fois que j'ai fait les maquettes, c'est comme si il était dans ma tête déjà, qu'il était mixé. Et donc, je n'ai qu'à suivre ce son que j'ai déjà dans la tête. C'est déjà fini pour moi. Et donc, j'essaie de m'entourer de tous les acteurs qui vont pouvoir m'accompagner dans cette espèce de fantasme que j'ai et cette espèce de chose qui est déjà très présente. Alors, dur, je ne sais pas. J'ai eu une mauvaise expérience, très mauvaise expérience. Mais c'est une expérience sur la confiance. C'est quelqu'un qui n'a pas eu confiance jusqu'au bout. Et l'album a été foiré à cause de ça. Et ça, c'est une grosse souffrance pour moi. Et après, j'ai mis du temps avant de reproduire un disque. Parce que moi, je ne peux travailler que dans la confiance. Je ne sais pas travailler dans le conflit. C'est impossible. Mais pourtant, je suis très ferme, je sais ce que je veux et je ne laisse pas de possibilité à ce que les choses soient floues. Hein. Mais je trouve que d'être gentil avec les autres, de savoir créer un climat vraiment agréable dans le travail, c'est important. Quoi. Je trouve que ça permet de vraiment beaucoup mieux travailler.
Étienne Dao, vous êtes aussi éditeur, producteur. Vous aviez créé votre premier label en 87. C'était Cupicol Records. Cupicol, c'est le nom d'une île de Saint-Martin, je crois.
C'est une plage où j'ai failli me noyer, d'ailleurs.
Alors, pourquoi donner à votre label un label, en plus, qui ne va avoir qu'une seule sortie, ce nom de Cupicol ?
Oui, si j'avais fait le single de Dany aussi.
Oui, c'est ça.
À une époque où tout le monde sortait des crucifix quand je disais son nom. Et donc, évidemment, c'était un aiguillon. Plus on me disait « mais non », plus je disais « mais si ».
Qu'est-ce que vous vouliez faire avec Dany ? C'était avant Boomerang, la chanson de Gainsbourg, que vous reprendrez plus tard ensemble.
Mais j'adorais sa voix parler. Et ça me faisait penser à Marianne, justement. J'avais peut-être ce fantasme facefoulesque avec Dany. Et il y avait aussi le parcours des expédients, de la tôle, d'un parcours un peu complexe quand même, qui rendrait très sexy à mes yeux. Et donc j'ai eu envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Et il était vraiment très réussi, ce single. Je me souviens qu'on avait eu la croche-couf de Libé. Et j'avais été vraiment très fier que tout d'un coup, on revienne. Tout d'un coup, il y avait son côté... elle est tellement rock, Dany. Vraiment, elle a ça dans la peau, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a un parcours de liberté, quoi. Elle saute de Truffaut à autre chose, des roses. Voilà. Je trouve ça assez beau de ne pas avoir de plan de carrière et d'attraper tout ce qui arrive comme ça, avec simplicité.
Cette chanson avec Dany s'appelait « Cette histoire commence » et ce sera la seule et unique sortie de ce label Cupicol Records en 87. Ensuite, il y a un autre label que vous allez lancer, Radical Pop Music, qui fera trois éditions, des concerts de vous, enfin un concert de vous, Le Condamné à mort, et puis des remixes. En revanche, ce qui va être beaucoup plus durable, c'est votre activité d'éditeur, puisque depuis sa création en 86, Satori Song édite toutes les musiques sur lesquelles vous avez travaillé. L'édition ou le publishing, ça consiste en quoi, Étienne Dao ?
Ça consiste à être propriétaire de ses œuvres. Ça me permet de décider de ce que va devenir ce catalogue et donc de le faire travailler. Mais bon, je suis un petit éditeur, donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais ça permet, par exemple, d'initier des projets. Le projet Loudoyon, par exemple, j'ai tout financé pour que ça existe. Et après, comme je suis un petit éditeur et que j'ai pas beaucoup de moyens, je peux pas accompagner dans un projet à long terme, les clips, ça, les tourner. C'est pas mon rôle, je suis pas un homme d'affaires, je m'en fous, j'ai pas envie de ça. Mais d'initier les projets pour que les gens qui sont rétifs à des choses puissent entendre ce que ça va être et puissent ensuite prendre le relais, ça oui. Donc ça a été le cas pour Le Condamné à mort, parce que J'imaginais pas le faire dans une major. Je n'aurais pas supporté qu'on regarde sur mon épaule. Mais j'ai initié Lou. Pour Calypso Valois aussi, c'est pareil. Il y a son album qui va sortir. Mais au départ, je voulais pas apparaître parce que comme on a un rapport de proximité, que je suis son parrain, je voulais pas lui faire la mauvaise ombre. Mais je suis devenu son éditeur. Je lui ai donné des sous pour 4 chansons. Avec cet argent, elle a fait des maquettes. Avec ces maquettes, elle a signé avec Piaz. Donc ça, c'est bien.
Toujours à propos de Fabrique, Étienne Dao, il y a un album qui est revenu plusieurs fois cette semaine, c'est Eden, un disque que vous allez enregistrer fin 96 à Londres, avec beaucoup d'invités, on entend les Swingle Singers, Saint-Étienne et surtout Astrud Gilberto, hein, the Girl from Ipanema, c'était elle, la femme de João Gilberto, à qui vous faites chanter les bords de Seine. Vous dites souvent, en tout cas depuis plusieurs années, que c'est votre album favori. Pourquoi ?
C'est le premier album où j'ai senti que je levais le voile. Et puis aussi, c'est, vous savez, c'est comme un enfant malade, quoi. La sortie était catastrophique à cause de ces histoires de rumeurs de sida qui traînaient autour de moi et personne s'intéressait du tout à la genèse de ce disque. J'avais mis 2 ans ou 3 à le faire. Enfin, c'était vraiment un disque où artistiquement, je me disais, voilà, on m'a connu jeune et coloré. Et léger, et voilà, le petit roi du palace et tous ces endroits et des nuits parisiennes, et c'est pas ça, quoi. J'avais envie de grandir, et donc cet album m'offrait la liberté justement de pouvoir m'ouvrir à autre chose et de pouvoir montrer que j'étais devenu un homme, et c'était important pour moi. C'était un album pour avoir un futur, simplement, et puis j'étais très content des chansons, des arrangements. C'était un gros travail, immense, cet album. Et voilà, j'étais vraiment fou de dépit de voir que les gens s'intéressaient à une rumeur mensongère plutôt que vraiment à ce disque que j'avais fait. Donc il y a eu une espèce de voile sombre sur ce disque et donc j'ai vraiment une espèce d'envie toujours de le défendre et de dire mais non, écoutez, lui, il est vraiment bien, vous êtes passé à côté.
C'est notamment l'album où on entend Soudain qui est vraiment une chanson magnifique.
Et puis c'était aussi lever le voile, quoi, dire des choses, commencer à dire des choses. Et donc commencer justement à me sentir à l'aise avec moi-même.
Étienne Dao, j'aimerais parler aussi des collaborations, parfois très régulières, que vous avez eues, avec beaucoup de musiciens que vous allez faire travailler, soit sur un ou deux morceaux, soit sur l'entièreté de certains albums. Il y a aussi des managers, des patrons de maisons de disques auxquels vous serez fidèles. Je voudrais parler notamment de partenaires qui vous accompagnent depuis longtemps, qui s'appelaient au départ les Max Valentin, avec qui vous allez travailler à de nombreuses reprises. Quand est-ce que ces jeunes gens viennent vous voir? Parce qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui jugeait que, par exemple, Edith Fambuena, la jeune femme de ce trio, avait l'air d'avoir 12 ans.
Oui. J'avais fait un concert à Nice et ils sont venus me voir. Et après un concert, quand on sort et qu'on a envie de s'amuser, on n'a surtout pas envie d'avoir quelqu'un qui vient vous hurler dans les oreilles, vous postillonner dessus. Donc, c'était un peu compliqué. J'avais envie de faire la fête avec mes amis. Il y avait donc le bassiste du groupe qui vraiment ne me lâchait pas, quoi. Et donc je lui ai dit mais je fais un concert demain, venez me voir après, vous aurez des billets, quoi. Et je m'en suis débarrassé comme ça. Et le lendemain, en fait, ils sont arrivés à l'hôtel dans lequel je jouais à Nice, je crois. Et ils sont arrivés, quand j'ai vu arriver Edith, tout de suite.
Edith Fambuena.
J'ai su que, enfin, c'est pas très gentil pour les autres, mais j'ai su qu'elle avait quelque chose en plus. Elle avait ce petit truc en plus qu'on voit de temps en temps. Et j'ai eu raison. Après, je les ai signés, j'ai fait un label pour les signer parce que je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Et j'ai catapulté Edith comme coproductrice d'un album important pour moi qu'on a fait à New York. On est tous les deux à New York parce qu'on avait Nile Rodgers pouvait pas produire le disque. On avait fait plusieurs tentatives infructueuses et on s'est dit mais en fait, on a fait les maquettes ensemble. Pourquoi on ne continuerait pas l'album ensemble? Aux grandes dames de Virgin qui se disaient mais une fille, enfin le côté macho, une fille productrice, et vraiment, enfin. Ils étaient très inquiets. On a ramené Paris ailleurs, qui était un disque assez mature au niveau de la production, véritablement.
Et puis par la suite, Edith Fambuena travaillera avec Alain Bashung, notamment pour Fantasy Militaire, pour Jacques Higelin. C'est surtout en fait son jeu de guitare que vous travaillez avec elle, Étienne Dao. Puisque Jean-Louis Pierrot, avec qui vous allez continuer à collaborer, le bassiste entre-temps, lui, il est parti, puisque c'est devenu Gérald de Palmas.
C'est
Mais Jean-Louis Pierrot, vous allez continuer à travailler avec lui. Qu'est-ce que vous recherchez dans cette collaboration au long cours avec Edith Fambuena? Parce qu'elle fera Pour nos vies martiennes, Paris ailleurs, Corps et âmes, L'invitation, plusieurs tournées.
Oui, j'aime travailler avec des gens qui sont de ma famille en fait. je ne vois que les gens avec lesquels je travaille. Et donc, j'ai plutôt intérêt à m'entourer de gens avec lesquels j'ai des affinités. Edith en fait partie et elle comprend l'artiste que je suis, vraiment. Elle a saisi tout de suite, elle a compris. Mais j'aime beaucoup aussi travailler avec Jean-Louis. On a fait un album tous les trois ensemble qui était Corps et âme, qui fait partie des albums que les gens préfèrent, je crois. Je crois qu'Edith a mal vécu ce disque. Mais moi, j'ai mieux connu Jean-Louis que j'avais éjecté de Paris ailleurs alors qu'on avait fait les maquettes ensemble. Je m'en suis toujours voulu de cette chose-là. Et j'ai voulu réparer par la suite. Parce que c'était... voilà, j'avais des affinités avec Edith aussi personnelles et j'avais envie qu'on fasse ce disque tous les deux. Et je pense que Jean-Louis l'a très très mal vécu parce qu'en fait, on l'a remercié. Il est rentré de New York, un peu la queue basse. C'était vraiment, vraiment pas très élégant de ma part. Et je l'ai retrouvé sur les chansons de l'innocence retrouvée. Et même sur Corps et armes, il plaque deux accords, j'ai tout de suite une mélodie. On a une entente très, très, très immédiate. On a composé les meilleures chansons de cet album d'une manière très rapide. Ouverture, par exemple, a été faite très vite. Il a commencé à plaquer les accords. J'avais la mélodie, la chanson était faite. Et L'homme qui marche aussi, qui est une de mes chansons préférées, c'est une chanson que j'ai écrite avec Jean-Louis.
Puisqu'on parle de Fabrique, Étienne Dao, un album, c'est d'abord une couverture, une image. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous avez été photographié par Pierre et Gilles, Edith Slimane, Jean-Baptiste Mondino, Jean-Marie Perrier. Il y a des couvertures sur lesquelles vous avez...
Knight,
Ce photographe-là, il est très important, Nick Knight.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous vouliez travailler avec ce photographe de mode?
Parce que il faisait un travail qui rentrait dans la peau et que Paris ailleurs était le premier album de la maturité et que j'avais envie qu'on me voie. Vraiment, tout simplement. Et Nick Knight a fait des photos où on me voit véritablement. On rentre dans les pores de ma peau. Véritablement. Je voulais ça. Je voulais une photo qui soit à la fois artistique et qui soit authentique. Et c'était une séance qui a duré 6 heures à Londres. C'était très très long. À la chambre. On me coupait les cheveux au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai plein de petits cheveux, si on regarde attentivement, plein de petits cheveux sur la peau.
Sur des photos en noir et blanc, avec un grain très fort.
Mais c'est vrai que la maison de disque était absolument effondrée. Du changement, en fait, alors que le changement, c'est toujours très, très salutaire.
Étienne Dao, il faut aussi parler de la photo de ce dernier album, Blitz, qui est une photo particulière.
Oui.
Vous avez choisi de travailler avec...
Paris Dukovic, j'avais vu ses portraits d'Obama. Et j'avais envie de travailler avec lui, c'est un Turc qui habite à New York. Et donc il est arrivé à Paris pour faire les séances, et j'ai eu la sensation de l'avoir toujours connu. Et j'avais parlé un petit peu avant de le rencontrer. J'avais revu L'Équipée Sauvage avec Brando, j'avais revu Portier de Nuit, j'avais revisionné aussi certains films de Kenneth Anger. Et donc voilà, ça tournait autour de ça. Et j'avais une réminiscence aussi de la tenue de Lou Doyon, qui était tout en pédicure. Et je trouvais super beau.
Oui, on peut dire un look qui est celui de Tom of Finland.
On peut.
Cuir, enfin, je pense. Noir,
enfin, le cuir, c'est un support à plein de fantasmes. Donc, je pense que chaque image est un support à fantasmes. Donc, si votre fantasme c'est Tom of Finland, ça le sera. Moi, c'est pas le mien personnellement. Mais non, j'étais parti d'autre chose en fait. C'était plus Portier de Nuit. Il y a un côté comme ça, mais c'était comme un jeu. C'est comme une affiche de film, faire une pochette de disque pour moi. Donc c'est jouer avec les images. C'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux une seule seconde. En plus, je trouve ça très beau. Je trouve ça très esthétique. Cette fumée comme ça. C'était un peu un déguisement.
Il y a un autre créateur avec lequel vous allez travailler, Étienne Dao, mais bien des années avant, c'est Guy Pellart, qui réalise la couverture de Pour nos vies martiennes. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Parce qu'il avait déjà fait quelques pochettes d'albums, mais en fait assez peu, deux à ma connaissance. Une pour David Bowie, c'est Diamond Dogs,
ouais.
Et puis un disque pour
les Stones, voilà. It's Only Rock and Roll, ouais.
Ou ce sont des peintures...
Photopeintures.
Photopeintures, ouais, de fantasmes... très lié au cinéma. Qu'est-ce qu'il imagine pour vous? On devine une voyante et une fête foraine.
Alors en fait, ça capte très bien. J'ai vu une photo dans Rock Dreams, son livre fétiche, où on voyait deux jeunes gens, je crois que c'était James Dean et je ne sais pas qui est à côté, dans une espèce de fête foraine. Il y a un côté très solitaire, il y a comme une espèce de malaise dans cette image. Et moi, je commençais à vivre ce trop plein de succès comme un endroit où on est supposé faire la fête, mais dans lequel on se sent pas très bien. Et c'était un peu ça l'idée de départ. Et donc, il a pris une tête d'une photo d'Antoine Giacomoni qui n'était jamais sortie. Et il a créé cette image magnifique. C'était vraiment incroyable. Moi, c'était vraiment quelqu'un avec qui je rêvais de travailler, mais jamais j'aurais imaginé pouvoir l'approcher. Et il a dit à quelqu'un de mon entourage que s'il avait envie de travailler avec quelqu'un en France, ce serait pour moi. Et donc, évidemment, j'ai bondi sur l'histoire et, et ça a pu se faire.
Toujours à propos de photographie, Étienne Dao, vous avez été invité à présenter vos propres photos à la Villa Noailles, ainsi cette année qu'à la Philharmonie de Paris. Pour les photos qu'on pouvait voir hier, il s'agissait de portraits de jeunes musiciens, de jeunes artistes. Qu'est-ce que vous avez utilisé de votre expérience de sujet en passant de l'autre côté de l'appareil ?
Comprendre que c'est très difficile d'être attrapé et que c'est beaucoup plus confortable d'être celui qui essaie de choper quelque chose d'un petit peu rare. J'avais pas fait de photos depuis longtemps et l'idée est venue quand il y a eu ces trois soirées, une jeunesse moderne que m'avait consacré la Philharmonie, de photographier la nouvelle scène. Et c'était vraiment, c'était des moments assez forts, quoi. Il y avait des moments de gêne parfois parce que les musiciens étaient gênés de me voir tourner autour d'eux, me mettre par terre, version blow-up un peu pour essayer de choper quelque chose. Et je sentais que ça les rendait très très mal à l'aise. Mais moi, j'étais absolument à fond dans mon rôle de photographe. Vraiment, je m'éclatais. Et comme je suis très, très patient, j'essayais d'attendre qu'il me donne quelque chose. En général, quand on pose, on donne un côté de soi avec lequel qu'on voit dans la glace et qu'on aime bien. Et il y a un moment où ça lâche et c'est ce moment qui est intéressant.
La photo, elle est très présente dans votre carrière, à regarder les couvertures d'albums, Étienne Dao, mais même ici, chez vous, vous nous recevez, puisqu'il y a sur le mur derrière nous une grande série de Dominique Tarlet, qui est connue pour son travail auprès des Rolling Stones. Là, c'était une série autour Punk Story, qui était autour d'Eli Medeiros.
Et Jacques Noe.
Et puis, présente encore la photographie, même dans vos amis de jeunesse, puisque Richard Dumas, qui est la première personne avec qui vous allez faire vos premières démos, vos premières chansons, va devenir par la suite un très grand photographe qui travaille beaucoup avec l'agence Vue. Il est fort probable que les auditeurs aient déjà vu ces portraits de Robert De Niro, Kate Moss ou Leonard Cohen, des photos en noir et blanc. Et c'est lui qui avait réalisé la pochette des chansons de l'innocence retrouvée, une photo qui avait fait un petit peu scandale, à cause d'une Salomé dénudée.
On se demande pourquoi. En fait, c'était juste une célébration de la beauté de cette fille. Cette photo existe, elle est belle, et c'est ça le plus important.
Pierre-René Worms, qui est le premier photographe à vous avoir suivi à vos débuts à Rennes, a capté quelque chose de vos débuts, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « Avant la vague ». Et ce qui est étonnant, c'est que à ce moment-là, quand vous commencez, tous ceux qui vous entourent s'accordent à dire que vous saviez très bien ce que vous vouliez faire en musique. Est-ce qu'il en allait de même avec votre image, Étienne Dao ?
Oh non, pas du tout. Je savais pas du tout ce que je représentais. J'avais plutôt même une image très négative de moi-même. J'étais toujours en admiration devant les autres. Je trouvais que tout le monde était si beau, si stylé, tout ça. Et moi, je m'appréciais pas du tout. Vraiment pas. Donc je comprenais pas trop pourquoi Pierre me photographiait autant. Et à l'époque, j'étais très gêné de son insistance. Il me shootait partout, au lever. Enfin, sans arrêt, quoi, dans des moments extrêmement intimes, et c'était vraiment gênant pour moi. Bien sûr, je suis hyper content maintenant d'avoir ces photos. C'est tellement luxueux qu'il ait documenté justement le moment où ça commence, qui est presque le moment le plus fort pour un artiste. Mais à l'époque, franchement, c'était un peu douloureux pour moi.
Il y a une actrice qui est aussi un mannequin, qui a dû être importante pour vous, Étienne Dao, puisque vous lui avez consacré une chanson. C'est Edie Sedgwick, qui était notamment une égérie de Andy Warhol et qu'on peut voir dans ses films Vinyl, Horse, Beauty No. 2. Pourquoi est-ce qu'elle était importante pour vous, Étienne Dao ?
J'aime bien les perdants magnifiques. Je suis toujours très attiré par les gens qui perdent et qui ont cette espèce de beauté. Il y a une beauté là-dedans. Et pourtant, Ciao Manhattan, qui est son dernier film, est très dur à voir. Parce qu'elle est filmée vraiment sur sa déchéance. Enfin, c'est un document de sa déchéance. Elle est filmée complètement défoncée et tout ça. Et c'est très très dur à voir et c'est très gênant de voir un document comme ça, véritablement. Mais il y a une beauté dans cette espèce de lâcher comme ça. Tout d'un coup, on lâche tout. Puis c'est si facile, c'est si rapide de tout abandonner, d'inverser le sens de sa vie.
Vous l'avez fait vous-même ?
J'aurais pu quand j'étais à Londres dans les années 90. C'était un moment où j'avais besoin de tout envoyer bouler pour recommencer. Mais j'aime trop la vie en fait. Je crois que mes années d'enfance m'ont donné véritablement un instinct de survie et de vie qui est très fort. Et je trouve que j'ai fait un parcours qui est inattendu. Parce que je suis quand même parti avec des plombs aux pieds. Et donc l'histoire, mon histoire et la vie que j'ai me plaît beaucoup. Voilà. J'avais envie d'avoir une belle vie et j'ai une belle vie. Et je suis pas prêt à la sacrifier pour ça. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses dans les mains. Beaucoup de mes amis qui avaient eu un parcours assez facile et qui se sont désintégrés sous mes yeux. C'est tellement précieux la vie. On peut faire tellement de choses, on peut donner tellement de bonheur aux autres, à soi-même. On peut créer, enfin c'est un terrain de jeu fantastique. Tomber amoureux toutes les 3 secondes.
Si vous n'aviez pas été chanteur, Étienne Daho, qu'est-ce que vous auriez aimé faire ?
Mais ce que je disais tout à l'heure, c'était la gloire ou le caniveau. Je l'ai déjà dit il y a longtemps, mais ça me fait rire de dire ça, mais ça aurait été un peu ça. Parce que il y avait une esthétique de la loose, en fait. Quand j'étais adolescent, c'était très beau, tous ces bouquins de William Burroughs et tout ça. J'en parlais beaucoup avec Marianne Faithfull, d'ailleurs. Elle s'est retrouvée dans la rue avec une aiguille dans le bras parce qu'elle avait trop lu William Burroughs. Et moi, c'était un peu pareil. Et tous les gens de ma génération, c'était un peu pareil. J'ai pas persévéré parce que j'avais pas d'argent pour me défoncer et parce que ça réveillait en moi des démons terribles. Et donc, c'était très difficile. C'était beaucoup plus douloureux qu'agréable. Je me souviens que quand j'avais peut-être 17 ans, il y a eu un moment dans ma vie chez un dealer, où j'habitais chez un dealer parce qu'il m'hébergeait à Londres. Et c'était costard cravate et tout, ça rigolait pas du tout. Et j'étais cobaye avec quelques amis qui étaient là, donc on essayait des choses, c'était très dangereux, quoi. C'était la roulette russe. On aurait pu rester perché, vraiment.
Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas arrivé d'après vous ?
La chance, je pense. Je crois que j'ai un peu le doigt de Dieu sur la tête. Véritablement, je le sens. Voilà, que quand les choses pourraient devenir assez mauvaises, il y a toujours quelque chose qui se produit pour amener un peu de lumière dans tout ça.
C'est une très belle fin, Étienne Daho, merci.
C'est alors un début, je sais pas.
On en restera là pour cette semaine, Étienne Daho. Merci de nous avoir reçus ici. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Tout est blanc. Givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver, en été, tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver, en été. La nuit blanche pourrait durer jusqu'à la fin de l'été. Allongé sur le sable givré, sous les flocons de l'été. La nuit pourrait durer toute l'éternité.
Fin de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Étienne Daho. À voix nue, réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Martin Guénard, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.
Tout est blanc. Étouffé, faux semblant, allongé, c'est l'hiver, en été. vent.